L'actualité des Alpes du Sud, un peu abîmée, pas vraiment dans l'air du temps. Manosque revoit son plan local d'urbanisme.
La mairie espère bien une mise à effet en 2022 avec trois axes prioritaires fixés, notamment le réinvestissement du centre-ville au travers de sa mobilité ou de sa voirie.
Les adaptations face au baccalauréat, du bricolage pour les lycéens.
Plusieurs centaines d'élèves ont fait blocus hier au lycée Dominique Villaraga. Ils demandent le passage des épreuves totalement en contrôle continu.
La crise sanitaire a moins permis de collecter alimentaire et n'a pas permis aux producteurs locaux de trouver des débouchés.
Le département des Hautes-Alpes réunit les deux problématiques et trouve une seule solution. Il fait le trait d'union entre les producteurs locaux pour qu'ils fournissent les associations caritatives en produits de qualité. Le dispositif Soliagri est lancé, un système gagnant-gagnant.
Et puis cette belle action sportive et humanitaire.
L'Ubaïen René Fontaine va parcourir, pour être exact, 3587 km à vélo du 16 août au 2 octobre pour lever des fonds pour deux causes précises, le cancer pédiatrique et le syndrome de Joubert. Météo.
Oui, alors on va dire qu'il y a encore des éclaircies possibles au lever du jour sur nos deux départements et puis ça va se couvrir progressivement avec de faibles averses qui pourraient se développer, notamment sur le relief dans l'après-midi. Côté température, maximale sur les Hautes-Alpes toujours entre 15 et 21 degrés en vallée. Pour les Alpes de Haute-Provence, ça s'échelonne de 19 à 22 degrés. À la une de l'actualité, c'est ce soir qu'il connaîtra son verdict.
Un homme de 51 ans est jugé depuis hier devant la cour d'assises des Alpes d'Haute-Provence pour viol incestueux sur mineur, des faits qui se seraient produits entre 1999 et 2007 à Digne-les-Bains et Castellane. Les plaidoiries de ces deux avocats sont attendues dans la journée. Et puis, depuis ce lundi, les magistrats et les jurés étaient réunis pour une nouvelle session d'assises. Un homme de 50 ans a écopé ce mercredi de 12 ans de réclusion criminelle. Le quinquagénaire a été reconnu coupable de viol sur sa fille. S'il a avoué avoir eu une relation sexuelle avec elle lorsqu'elle avait 21 ans en 2018, il a nié à la barre avoir abusé d'elle quand elle était âgée de 11 à 14 ans. Des arguments qui n'ont pas convaincu la cour, qu'il a donc condamné à de la prison, ainsi qu'à un suivi socio-judiciaire de 4 ans et une obligation de soins.
L'avenir de Manosque devra s'écrire dans son centre-ville.
Un peu abîmé, plus vraiment dans l'air du temps, c'est par ces mots que le maire Camille Galtier juge le PLU de la cité de Giono. Il faut dire que le plan local d'urbanisme date de 2004. Une grande révision a donc été entamée, un travail de plusieurs mois qui s'est poursuivi mercredi. Le PADD, le projet d'aménagement et de développement durable, a été présenté à la population par visioconférence. C'est en fait une feuille de route. Elle exprime les grandes lignes pour les 10 prochaines années. Trois axes ressortent clairement. Renforcer Manosque sur l'extérieur en mettant l'accent sur l'emploi et le logement. Il faut de la quantité et de la qualité pour soutenir la croissance démographique. Manosque doit aussi être une porte d'entrée aux trois territoires remarquables que sont Durance, Luberon et Verdon. Pour cela, la part belle doit être laissée à l'agriculture et au milieu naturel. Enfin, point et non pas des moindres, réinvestir le centre-ville. Camille Le Floch est directrice du cabinet Planède à la manette de cette révision du PLU manosquin.
Renouveler ce centre-ville et le remettre au centre vraiment de la politique de développement de la commune, avec une armature des déplacements absolument essentielle à remettre en place, que ce soit au niveau des voiries, mais aussi au travers toutes les alternatives à la voiture, la reconquête du centre ancien, aujourd'hui dégradé, en perte de vitesse économique, et au cœur de ce projet, et à animer l'ensemble des échanges et des débats que nous avons pu avoir avec les élus, afin de le remettre vraiment au cœur du dispositif de ce document d'urbanisme. Et puis enfin, travailler sur le renouvellement de la ville pour disposer d'extensions et de développements urbains cohérents avec ses objectifs à la fois d'accueil de démographique, mais aussi pour répondre à l'ensemble de ce dispositif réglementaire qui impose aujourd'hui à l'ensemble des territoires de modérer la consommation en termes d'espace agricole, d'espace naturel et d'espace forestier, qui est aussi un des travaux de fond sur lesquels les élus ont souhaité s'engager.
La municipalité espère une approbation de ce PLU et une mise à effet début 2022.
Volet sanitaire, une situation qui s'améliore dans les Hautes-Alpes face au coronavirus.
Le taux d'incidence est à la baisse entre le 10 et le 16 mai dernier, 101 pour 100 000 habitants contre 137 la semaine d'avant. Le taux de positivité s'incline aussi, passant de 5,1% à 4,1%. La vaccination a connu un coup d'accélération. 33% des Walpins ont reçu au moins une injection. Près de 18% de la population est totalement vaccinée contre 17% en région, 14% en France. Des chiffres encourageants. Malgré tout, la préfecture joue la carte de la prudence. Le masque reste donc obligatoire au moins jusqu'au 9 juin.
Jean-Michel Blanquer peut bien revoir sa copie du bac, hein, ça ne passe pas du tout chez les lycéens.
Ils étaient plusieurs centaines d'élèves de différents établissements de Gap à s'être donné rendez-vous hier matin sur le parvis de Dominique Villard à Gap pour un blocus. La crise sanitaire a véritablement perturbé les programmes cette année. Seules les épreuves de spécialité qui n'ont pu être passées en mars dernier seront notées en contrôle continu pour le bac. Pour la philosophie, la meilleure des deux notes décrochées par le candidat sera retenue, soit celle de l'épreuve écrite, soit la moyenne de l'année. Le grand oral reste maintenu. Du bricolage pour ces lycéens. Le reportage sur place d'Aurore Valory.
Musique, sourire, ambiance festive. Pourtant, c'est l'inquiétude qui a réuni ces lycéens ce jeudi matin sur le parvis de Dominique Villard à Gap.
On a envie de porter du soutien parce que peut-être ça va nous toucher l'année prochaine. Et du coup, on veut qu'on nous écoute plus.
Les écouter plus dans leurs revendications face au baccalauréat. En raison d'une année scolaire très perturbée par la Covid-19, les épreuves du bac 2021 vont être aménagées, notamment en philosophie et en français. Mais il n'y aura pas de contrôle continu intégral. Marie-Lou est en terminale.
Pour les sections générales comme nous, on va avoir l'épreuve de philosophie et le grand oral. Sinon, le reste sera en contrôle continu. Pourtant, on a des élèves qui n'ont pas vu leur professeur de philosophie depuis plusieurs semaines. Il y en a qui le voient depuis le début de l'année. C'est complètement inégalitaire et c'est complètement inacceptable.
Ce grand oral fait aussi débat. Une épreuve qui a été inscrite cette année. Une note qui doit valider des compétences estimées essentielles comme la maîtrise d'une parole personnelle structurée et argumentée, la clarté, la réflexion, le dialogue ou encore le débat. Mélisa estime ne pas y être assez préparée.
L'épreuve ne nous prépare pas forcément. C'est tout nouveau pour nous. Et le grand oral, il faut savoir que c'est CoF10. Donc c'est une période de stress du coup. Et en fait, ça va être un oral sur 5 minutes. Et on va devoir répondre à une problématique. Mais c'est assez flou et même les professeurs ne savent pas répondre à nos questions.
Exactement. C'est la colère, mais aussi la solidarité qui a motivé les élèves. Notamment Arthur Fournier en première, c'est lui qui est co-organisateur de ce blocus.
Nous, si vous voulez, on a eu cours en présentiel toute l'année. On n'aura pas de problème quand ce sera le moment de passer les épreuves. Mais c'est pas le cas de tout le monde en France. Voilà, la solidarité, quoi. Oui, il y a eu énormément de lycées qui ont été en demi-jauge pendant presque toute leur scolarité, qui ont survolé le programme parce que c'est extrêmement difficile de récupérer des cours quand on est chez soi via un ordinateur. On n'a pas toujours une bonne connexion. On n'a pas forcément un ordinateur personnel pour pouvoir travailler. Vouloir nous imposer les mêmes épreuves avec les mêmes aménagements alors qu'on n'a pas tous eu le même parcours cette année, c'est complètement ridicule.
La demande des élèves à Jean-Michel Blanquer est simple, ne prendre en compte que le contrôle continu.
Philosophie le 17 juin, grand oral le 21 et le 25 juin. Dans le même temps, les assistants d'éducation étaient également en grève ce jeudi sur de nombreux établissements alpins. À l'instar du collège de Guillestre ou du lycée d'Embrun, ils revendiquent deux meilleurs salaires, un statut de fonctionnaire et une reconnaissance de leur métier. Lui a obtenu une bonne note, mais dans une autre épreuve, un jeune alpin sera au concours du meilleur apprenti de France. Fort de sa victoire le 12 mai dernier de la finale régionale filière plomberie et génie climatique organisée à Gap, Théo Bétrémieux a fait la fierté de son cursus monteur installation sanitaire en devançant à domicile Jonathan Pellafiné, son camarade de classe. Il se prépare d'ores et déjà pour ce concours prestigieux qui aura lieu à la rentrée, une épreuve d'excellence dans laquelle il devra créer un capteur solaire fonctionnel et opérationnel, rien que ça.
La crise sanitaire aura perturbé aussi la solidarité auprès des collectes alimentaires.
Les grandes surfaces n'assurent plus la ramasse, préférant faire des promotions, donc moins de collectes pour les associations. Et puis les producteurs locaux ont moins de débouchés. Alors, comment lier les deux problématiques et les solutionner ? Lier les producteurs et les associations. C'est le département des Hautes-Alpes qui fait le trait d'union. Les producteurs locaux vont fournir les associations caritatives pour leur permettre de bénéficier de produits de qualité. Le dispositif Soliagri est lancé, un système gagnant-gagnant. Accompagné dans un premier temps par l'État, il a été reconduit et pérennisé par le département le 13 avril. Une nouvelle enveloppe de 150 000 euros a été votée. Jean-Marie Bernard, président.
On avait beaucoup d'espoir en disant que la crise sanitaire ne va pas durer. Aujourd'hui, elle n'est pas terminée. Donc on fera, tant qu'on en aura besoin, on maintiendra le dispositif Soli, Agri. On avait démarré une opération avec 50 000 euros de l'État, 50 000 euros du département. L'État avait des opportunités financières. Aujourd'hui, on n'a plus de certitude du côté de l'État. Donc nous, département, nous continuerons. On mettra l'argent qu'il faut pour continuer à faire perdurer cette opération. Il y a des relations entre les associations et les producteurs locaux. Nous faisons qu'acheter des produits. Alors on achète de la viande, on achète des pommes de terre. Aujourd'hui, on achète des légumes. Enfin, c'est la saison aussi qui conduit un peu.
Environ 2000 personnes sont accueillies au Resto du Cœur dans les Hautes-Alpes grâce aux 6 centres répartis sur le territoire, un chiffre en légère augmentation depuis la crise sanitaire. Traditionnellement, l'association bénéficie des ramasses des grandes surfaces, les invendus de produits dont la date de péremption est proche, mais il y en a désormais beaucoup moins. Les magasins favorisent les promotions, c'est ce que note Françoise Burlé, responsable départementale adjointe des Restos du Cœur des Hautes-Alpes. Elle se satisfait donc pleinement de ce travail main dans la main entre les producteurs locaux et les banques alimentaires.
C'est vrai que depuis le premier confinement, en fait, on a eu la chance d'obtenir la subvention du département et de l'État qui nous a permis d'acheter les produits aux producteurs locaux, donc des produits d'excellente qualité, ce qui a permis de servir nos personnes accueillies avec des produits de bonne qualité. Je pense qu'ils ont apprécié. Après, au niveau du nombre de personnes accueillies inscrites, on a eu une légère hausse, mais qui est variable suivant les centres, en fait. Le centre de Vennes a vu une grosse augmentation de ses personnes accueillies, mais c'est pas le cas pour tous les centres.
Des propos recueillis par Aurore Valory.
Alpe 1 Sport. Avec Sébastien Augier, en quête de la passe de 3.
Vainqueur de 2 rallyes sur 3 depuis le début de la saison, le haut alpin va tenter de glaner ce dimanche une 6e victoire en carrière au Portugal. Un parcours lusitanien avec 20 spéciales, 337 km chronométrés, quasiment identique au circuit prévu lors de l'édition 2020 qui avait été annulé à cause de la crise sanitaire. Des premières indications ont été données hier à l'occasion du check-down remporté par son coéquipier chez Toyota, Elfyn Evans. 5e de l'épreuve, l'actuel leader du classement général espère un coup de pouce de la météo, car si c'est sec, il ne veut pas parler de victoire. C'est ce qu'il indiquait hier à l'issue de ce premier épisode du feuilleton portugais.
Lui va pédaler pour la bonne cause, des kilomètres à vélo pour la recherche pédiatrique.
3587 kilomètres pour être exact. Telle est la distance que va parcourir du 16 août au 2 octobre René Fontaine pour lever des fonds pour deux causes précises, le cancer pédiatrique et le syndrome de Joubert. Ce projet fou a germé dans la tête de ce retraité ubaïen de 75 ans cet hiver après avoir rencontré Élise, une petite fille de 2 ans atteinte d'un cancer. Une rencontre qui l'a motivée à agir à son niveau et à l'aide de son deux roues. Avec la collaboration de son ami Daniel Ledinf, président depuis 10 ans de l'association SOS Nolwenn, du nom de cette petite fille atteinte du syndrome de Joubert, ce membre du Rotary Club de Barcelonnette a ainsi pris contact avec les 32 000 Rotariens de France pour mettre en exécution son projet. Avec un départ et une arrivée dans sa ville basalpine, en passant par Moulins, Brest et Toulouse, René Fontaine ne se donnera aucun jour de repos à l'occasion de ce périple à vélo aux étapes quotidiennes de 70 km en moyenne. Un véritable tour de France en solitaire pour ce chevalier de l'ordre du mérite au grand cœur.
Ce projet, je l'ai lancé avec tous les Rotariens de France. Les 48 villes traversées, on sera accueillis par les Rotariens. Et chaque soir et chaque matin, tous les clubs sportifs vélo vont venir m'attendre sur le parcours et m'accompagner le matin. Donc ça sera une fête en fait tous les jours. On a pris l'initiative de faire chaque jour l'étape. Moi je serai en vélo et je serai suivi par une voiture que Daniel, mon copain, conduira avec le gyrophare et puis tous les sponsors qui participent à notre parcours. Si jamais il y avait un problème quelconque, mécanique ou un orage violent, je peux toujours m'abriter dans la voiture.
Avec des marraines comme Valérie Fignon et Sophie Anctil, respectivement la femme et la fille de deux légendes françaises du cyclisme, cette opération a déjà convaincu de nombreux sponsors, mais toute contribution est la bienvenue. Pour ce faire, il suffit d'envoyer un chèque à l'ordre du RY Action, qui permettra d'être défiscalisé à 60%. Retrouvez les coordonnées sur alpe1.com. Notez que l'intégralité des dons sera versée à la Fondation Lanval de Nice, à l'hôpital Trousseau à Paris.
Et une saison de plus pour les deux Quentin des Diables Rouges de Briançon.
Arrivé dans les Hautes-Alpes à l'occasion du retour en Ligue Magnus il y a 2 ans, les hockeyeurs Quentin Fauchon fait la passe de 3 avec un nouvel exercice sous les couleurs briançonnaises après notamment une grave blessure à l'épaule qu'il a écarté des patinoires une grande partie de la saison 2019-2020. Il sera accompagné par son homonyme Quentin Berton qui espère vivre enfin une saison pleine après cette première année avec les rouges et blancs des plus atypiques.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.